retour, dimanche 29 juin, à l'Auditorium de Radio France, 12 équipes internationales s'affronteront en house, hip-hop et break. Une compétition unique où chaque battle est une finale. Réservez vite vos places sur maisondelaradioetdelamusique.fr. Move, une radio de Radio France.
France Inter. Première radio de France.
Il est 20h sur France Inter. Clémentine Sabrier pour l'info. Bonsoir Clémentine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Il va faire de plus en plus chaud dans les prochains jours. Une vague de chaleur va s'abattre sur la France à partir de demain jusqu'à la fin du week-end. Des pics de température attendus samedi. 36 degrés sur une bonne partie du pays, 38 dans l'ouest et la basse vallée du Rhône. Guillaume Fariol, les épisodes de chaleur au mois de juin, c'est de plus en plus fréquent mais ça n'en reste pas moins anormal.
Des records mensuels pourraient être battus localement dans les prochains jours car cette vague de chaleur reste précoce et intense, explique Météo France. Même si nous sommes de plus en plus habitués, c'est vrai, à ces coups de chaud dès le mois de juin, ils arrivent de plus en plus tôt et sont de plus en plus nombreux. Ce sera la 50e vague de chaleur depuis le début des mesures météo en 1947. 17 ont été enregistrées avant 2000 et 32 depuis l'an 2000. Le lien avec le réchauffement climatique ne fait aucun doute, explique Météo France, qui prévient. Dans les prochaines décennies, ces vagues de chaleur pourront s'étendre de mi-mai jusqu'à début octobre avec des pics localement à 50 degrés en France, ce qui pourrait arriver d'ici 2050, dans 25 ans. Pour l'instant, le record absolu de température dans notre pays remonte au 28 juin 2019, 46 degrés à Vérargues, dans l'Hérault.
Guillaume Fariol, Emmanuel Macron appelle Israël à mettre urgemment fin aux frappes sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien. Le chef d'État demande également au Quai d'Orsay de faciliter le départ des Français qui souhaitent quitter l'Iran ou Israël. Les États-Unis, eux, préparent l'évacuation de leurs ressortissants d'Israël alors que Donald Trump hésite à entrer dans le conflit ouvert entre Israël et l'Iran. Peut-être, peut-être pas, a déclaré le président américain tout à l'heure. Il dit que sa patience est déjà à bout. Israël affirme mener de nouvelles frappes ce soir sur l'ouest de l'Iran. Les gardiens de la révolution annoncent de leur côté que l'Iran a tiré un missile hypersonique vers Israël. Le bilan s'alourdit en Ukraine. 28 personnes sont mortes après la frappe russe qui a touché Kiev dans la nuit de lundi à mardi. 23 des victimes étaient dans le même immeuble. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé l'une des pires attaques russes contre la capitale ukrainienne. La Cour suprême des États-Unis valide l'interdiction d'accès au traitement de transition pour les mineurs transgenres. Elle autorise une loi de l'État du Tennessee, une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences. La moitié des États américains ont déjà adopté des textes en ce sens, alors que 300 000 adolescents américains ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. En France, plusieurs syndicats CGT, Solidaires et FSU dénoncent une opération xénophobe prenant pour bouc émissaire les plus précaires parmi les précaires. Ils parlent même de rafle pour qualifier l'opération nationale de contrôle d'étrangers organisée aujourd'hui et demain par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. 4000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés dans les gares et les bus. La CFDT sera bien présente au rendez-vous de la dernière chance lundi. Dernière chance pour trouver un accord sur les retraites. Le conclave devait prendre fin hier. Le syndicat ira à cette ultime réunion pour concrétiser des accords sur les femmes et sur la pénibilité. Le MEDEF n'a toujours pas dit s'il viendra. Les basketteuses françaises s'imposent pour leur premier match de l'Euro en Grèce. Courte victoire 71-69 contre la Turquie. Après avoir été longtemps menées au score, les Bleus rejouent dès demain contre la Grèce.
France Inter présente
Histoire secrète de la French Touch.
C'est quoi la French Touch?
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
Ils étaient un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
30 témoins.
Ils inventaient quelque chose.
30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
Voilà, il y avait une idée de mouvement.
Daft Punk, Cassius, Justice, les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont faite.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter.
Histoire secrète de la French Touch.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Former une personne de plus de 50 ans, c'est une blague.
Mais au contraire, pour moi, c'est très sérieux. Quand j'ai formé Marc, 59 ans, à la soudure laser, j'ai su que je pourrais faire confiance à son expérience. En plus, maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
France Inter, partenaire de Enzo, un film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo.
Enzo ?
Enzo, 16 ans, apprenti maçon à La Ciotat, cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale.
T'es un petit bourge que ça raconte des histoires, c'est tout.
Sur les chantiers, avec Vlad, un collègue ukrainien, Enzo va entrevoir un nouvel horizon.
J'ai pas envie de cette villa, ces trucs. Tout le monde fait la fête comme si tout allait bien.
Enzo, avec Éloi Pohu, Pierre-Francesco Favino et Élodie Bouchèze, actuellement au cinéma, un film France Inter.
France Inter, il est 20h05, à suivre la 20e heure avec Eva Bester. Bonsoir Eva.
Bonsoir Clémentine. Aujourd'hui, je reçois la comédienne Juliette Binoche pour parler d'Ulysse, de deuil, de légende et de persévérance à l'occasion de la sortie du film The Return d'Uberto Pasolini.
Mais juste avant le temps de se brosser les dents, voici les petits bateaux avec Camille Cronif.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, à l'attaque!
Bonjour, je m'appelle Augustin et j'ai 8 ans. J'aimerais savoir comment est l'intérieur d'un tank. Merci beaucoup.
Et merci à toi Augustin, moi aussi dis donc, j'aimerais bien savoir comment est l'intérieur d'un tank, même si bon, en vrai être dans un tank c'est pas cool parce que ça veut dire que tu fais la guerre. Alors, Géraud Létang, vous ne faites pas la guerre, vous êtes historien, donc vous étudiez la guerre et vous êtes au contact d'officiers en particulier puisque vous êtes aussi enseignant à l'école de guerre. Alors, l'intérieur d'un tank, est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Alors, déjà Augustin, t'as raison de poser la question parce que un tank, on voit toujours l'extérieur, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous, alors que c'est à l'intérieur que ça se passe. Ce côté extérieur, pour te raconter une anecdote, c'est que les premiers soldats qui ont vu des tanks pendant la Première Guerre mondiale, dans la Somme, c'était sans doute des soldats canadiens, et quand ils les ont vus arriver, vu qu'ils n'en avaient jamais vu, ils ont donné l'alerte en disant « nous sommes attaqués par des crocodiles ». Donc tu vois, l'extérieur d'un tank...
Ils ont pris les tanks pour des crocodiles.
C'était le premier mots qui venaient face à ces espèces de gros engins qui sont en train d'avancer parmi des tranchées, donc ça donnait l'impression d'un crocodile qui se déplace, eh bien ils ont appelé ça des crocodiles. Alors, déjà, faut savoir que quand on dit les tanks, t'as plein de catégories. Il y a des véhicules blindés, c'est-à-dire à qui on a rajouté des couches de métal pour éviter qu'ils soient détruits quand on leur tire dessus. Mais tu vois, les blindés, ça se ressemble pas. Déjà, il y en a qui ont de l'artillerie, c'est-à-dire des moyens de tirer, et d'autres qui servent juste à la protection ou au transport. Dans un blindé, l'équipage, ça s'appelle comme ça, le groupe de gens qui va piloter le blindé, ça peut être de 2 personnes à 6 personnes. Pour te donner un exemple, si tu veux bien, je vais prendre le char que tu verras peut-être défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Ça s'appelle le char Leclerc, qui est le char français. Et ben dans un char Leclerc, il y a 3 personnes. Il y a un pilote qui se trouve à l'intérieur et qui va être tout serré parce que il y a très peu de place vu qu'on a mis plein de métal autour. Et pour lui permettre de piloter son char, on lui a rajouté plein de technologies tout autour, pour savoir où va le char, comment il faut éclairer, qu'est-ce qu'il faut faire, et surtout avoir les indications sur le char. Parce que dis-toi qu'un char Leclerc, ça consomme 140 litres d'essence en une heure.
Oula, pas donc, du tout écolo le char Leclerc.
Tout à fait, et puis c'est surtout que on trouve pas de station d'essence pour char partout, donc il faut faire très attention là-dessus. Ensuite, au-dessus de lui, il a un opérateur tourelle, qu'on va aussi appeler le tireur. Donc la tourelle, le pilote, il est au rez-de-chaussée. La tourelle, c'est le premier étage, qui lui va s'occuper de tout ce qui va être le tir. Donc si on doit tirer sur un ennemi, dis-toi qu'un char Leclerc, quand ça tire, ça peut atteindre sa cible à 4 km. Et on peut tirer en roulant. C'est pour ça qu'il y a plein de matériel. C'est pour ça que c'est tout serré, parce qu'il faut que ce soit très stable. Et l'autre, à côté, il y a le chef, si tu veux, le chef de char, qui va être de l'autre côté de la tourelle, qui lui va s'occuper de se coordonner avec tous les autres chars, de suivre les mouvements. Un char, ça se déplace pas tout seul, il y a toute une unité derrière, c'est ce qu'on appelle les unités blindées, on dit dans l'armée française même la cavalerie blindée. Et donc, lui va avoir toutes les informations pour savoir où il faut tirer, où il faut manœuvrer. Et c'est pour ça que, comme ça, le char va marcher avec d'autres chars. Mais il faut plein d'autres véhicules, des véhicules qui s'occupent de l'observation et aussi des véhicules de dépannage, puisque un char, tu n'en verras jamais un tout seul.
Contrairement aux crocodiles. Salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Et on retrouve Eva Bester pour la 20e heure. Bonsoir Eva.
Bonsoir Camille, Juliette Binoche est en studio, générique. Singulière, instinctive, surprenante et toujours éblouissante, la comédienne Juliette Binoche est l'une des rares actrices à avoir été sacrée aux César, aux Oscars et au Festival de Cannes, dont elle a d'ailleurs présidé le jury en mai dernier. On l'a vue irradier chez Philippe Kaufmann, Christophe Kieslowski, Anthony Minghella, Olivia Assayas, Abbas Kiarostami, Bruno Dumont, David Cronenberg, Claire Denis ou Léos Carax, et danser des chorégraphies imaginées par Akram Khan ou Angelin Prejlocage. Elle joue la mythique Pénélope dans le dernier film d'Uberto Pasolini, The Return, le retour d'Ulysse, aux côtés de Ralph Fiennes, je pense que je le prononce très mal, et Charlie Plummer. Elle a récemment préfacé le livre La forteresse des âmes mortes de l'ethnologue Sandrine Chenivès, paru chez Actes Sud, ouvrage consacré à la mort dans la tradition taoïste, et elle se prépare à jouer dans le prochain spectacle de Wajdi Mouawad en Grèce, pays à l'honneur ce soir. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Juliette Binoche.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée?
Oh là, je suis en répétition avec Wajdi Mouawad, comme vous l'avez dit, et travailler avec lui, c'est enthousiasmant, c'est plus que ça, même c'est fulgurant, parce qu'il est sans arrêt dans une relation à la fois verticale et horizontale, puisqu'on va jouer à Épidore, on commence la première série à Épidore, où on appelle les dieux, on conjure les dieux, et à la fois on est dans des relations familiales, mère, fille, fils, donc c'est extrêmement intense et passionnant.
En 85, vous avez monté pour la première fois les marches du Festival de Cannes pour le film Rendez-vous d'André Téchiné. 40 ans plus tard, vous avez présidé le jury. Qu'est-ce que ça vous a fait ?
Un court-circuit, parce que c'est vrai que quand on est vraiment dans le présent, on est au-delà du temps, puisqu'on peut aussi bien penser au passé qui est si présent et... presque, je dirais, la mémoire est, peut être plus présente que le futur, parce que le futur, ça reste assez abstrait, même si on peut rêver un rendez-vous, parce qu'on va quelque part, on sait qu'on va rencontrer, ou on sent qu'on va rencontrer quelque chose de si présent en soi, mais en fait, ces 40 ans, c'est un éclair, comme à la fois, bah oui, on a vécu, les valeurs ont changé, j'ai deux enfants, alors que 40 ans avant, j'en avais pas, il y a toutes les histoires d'amour, tout ce qu'on a aimé, toutes les séparations aussi, les morts des gens proches ou de la famille. Donc c'est tout un amalgame et à la fois le présent devient plus présent. Donc c'est émouvant, c'était émouvant pour moi d'être à Cannes et à la fois presque naturel puisque je suis née là-bas comme actrice.
Vous arrivez à être dans le présent ? C'est une chose assez rare ?
Ah ben l'art de l'acteur, c'est le présent. C'est d'incarner, je parlais de conjurer les dieux, on peut conjurer les émotions, c'est-à-dire faire en sorte de faire place en soi à une captation de quelque chose qui vous dépasse. On peut parler d'une émotion qui dépasse. C'est pas moi qui en suis le maître, mais je suis le réceptacle. Donc c'est possible que ça passe à travers moi. Et l'art de l'acteur, c'est celui de faire présence de forces qui ne lui appartiennent pas, mais qui passent à travers lui.
Est-ce que vous y arrivez en dehors du jeu, dans le réel ?
Alors c'est différent, parce que quand on joue, on recrée la vie. Donc il y a vraiment l'idée d'une création, d'une recréation. Et c'est un endroit particulier en soi. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne. Dans la vie, c'est un peu différent parce que, oui, on est dans le présent, mais il y a pas l'idée de recréer. C'est pour ça que c'est passionnant d'avoir un lieu de création dans sa vie. Et on n'a pas besoin d'être acteur pour ça ou d'en faire son métier. Il y a ce lieu qui est plus intense quelque part, parce que on fait de ce temps, de cet espace, quelque chose de spécial, qu'on donne une attention spéciale. Et le fait, c'est comme en prière, hein, c'est d'avoir là, cette création d'un espace intérieur qui fait que c'est exceptionnel, que ça devient exceptionnel.
Ça touche au sacré.
Ça touche au sacré, mais à cette possibilité qu'on a chacun.
Alors, question très prosaïque, n'êtes-vous pas trop fatiguée après Cannes, avec toute cette promo, tout ce festival et la promotion du film dont on va parler dans quelques instants?
Alors, c'est vrai que la clôture de la cérémonie du palmarès à Cannes s'est terminée le samedi, on est rentré le dimanche et le lundi j'étais en répétition avec Wajdi. Donc c'est vrai que j'ai pas touché terre. Et c'est vrai que les deux semaines, et c'est connu pour ça, deux semaines à Cannes, c'est comme avoir cinq tournages qui s'enchaînent. C'est prenant, c'est fatigant, mais à la fois c'est très excitant parce qu'on voit des œuvres, parce qu'on parle des œuvres et qu'on rencontre au sein d'un jury, il y a des gens qui viennent de pays, de continents différents et on voit des films qui viennent de continents différents, donc c'est tout à fait passionnant et ça accélère les cellules et les envies et les désirs à l'intérieur de soi, donc c'est génial. Et Wajdi Mouawad, c'est vraiment un monde fulgurant aussi d'idées, d'émotions, donc c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée, je dois le dire, mais à la fois très emportée comme par la vague.
J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens, je cherche la paix un peu partout, guidé par le vent, pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit tu connais rien à la souffrance, celle que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur le chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix, dire repenser, repenser, repenser. Moi je comprends pas pourquoi je suis né, je suis dans le flow. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Il fallait savoir déjà est-ce que vous l'aimez. Vous cette vie énorme qui m'a demandé ma permission de venir au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, 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 pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. La vie de rêve, la vie de Tony Braxton. Les mauvais choix font que je déconne. Son bras petit feu, le désespoir résonne. Tant d'innocents, tant d'innocents payent pour que l'Occident règne sur les consciences saines, puis de confiance. Les conséquences saines de la méfiance saine, les cœurs mis en scène. Qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, 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 pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. Hey, la vie de rêve, la vie de...
Damso, le morceau « Qui m'a demandé ?»
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Juliette Binoche, vous êtes à l'affiche du film The Return, le retour d'Ulysse d'Uberto Pasolini. Après Le patient anglais d'Anthony Minghella et Léo de Hurlevent de Peter Kosminski, vous retrouvez, je vais vous laisser le prononcer parce que moi je le dis comme...
Ralph Fiennes,
que j'ai envie de dire Ralph Fiennes, qui interprète Ulysse. Est-ce que c'est rassurant de retrouver un acteur avec lequel on a déjà beaucoup travaillé ou c'est difficile de l'imaginer dans un rôle si différent?
Non, c'est un cadeau en fait, parce que le temps pour un acteur joue en sa faveur parce que d'abord ça s'approfondit, c'est comme du vin hein, qui mature et de se retrouver c'était très émouvant parce que les silences sont différents, parce que il y a une confiance qui est gagnée et puis à la fois il y a un étonnement d'être toujours sur les chevaux du jeu en train de brûler, parce qu'il y a l'idée de quand même de brûler quand on joue, hein, même si on peut jouer des choses très calmes, mais à l'intérieur de soi, il y a quand même un bouillonnement et de rentrer en soi. Donc moi, j'étais très émue de jouer avec lui, et je crois que c'était réciproque, donc on s'est retrouvés. Et puis comme c'est dans l'histoire, il se retrouve après 20 années de séparation, quelque part c'est ce qui nous était arrivé, puisque le patient anglais, ça fait pas 20 ans, mais je sais plus combien de temps d'ailleurs, peut-être un peu plus, parce que mon fils avait 3 ans, donc il en a 31, donc c'est comme ça que je calcule maintenant. Donc ça faisait plus de 20 ans, et donc cette situation-là, elle était presque réelle dans le film.
The old king is dead.
How did you die?
Old men die. You need protection, just as your son needs a father. I'm not young, like some of the others. I'm not famous, like your husband. If he were alive, I would respect him, just as I respect his widow.
I am Odysseus' wife.
Odysseus is dead.
Not to me.
Juliette Binoche, on vous entend dans le film The Return d'Uberto Pasolini. L'un des prétendants pour vous épouser vous parle, c'est l'un des rares à être gentil d'ailleurs, et il vous dit que Ulysse est mort, vous dites Ulysse n'est pas mort à mes yeux. Le film est basé sur l'Odyssée d'Homère, que vous n'aviez pas lu petite, mais découverte en la lisant à vos propres enfants.
C'est ça.
Et vous en vouliez, comme beaucoup d'entre nous, à Ulysse.
Un petit peu, ouais, parce que c'est un peu macho cette histoire, non?
Bah quand même, pendant 20 ans, il part, il a quand même eu la bagatelle avec Circé. Puis il revient tranquillement pendant que Pénélope était...
Tranquillement, pas si tranquillement que ça, hein, quand même.
Non, c'est vrai.
Il est échoué sur les bords de la mer de d'Ithaque. Non, il est quand même mal en point.
Edward Bond, le dramaturge disparu après le film, a participé au scénario.
Oui, tout à fait.
Et ça vous a changé votre perspective sur le personnage d'Ulysse?
Oui, alors il est passé dans différentes mains d'auteurs. Et Uberto Pasolini avait la passion de cette histoire-là. Il voulait la raconter depuis des années et des années. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, tout de suite, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement bien écrit, que ça m'a donné envie de dire oui tout de suite. Et au départ, Uberto devait juste le produire et pas le mettre en scène. Et puis finalement, Rafe lui a dit, mais si, c'est toi qui dois le mettre en scène parce qu'il a un rapport à cette histoire. Plutôt d'un point de vue féministe, hein, c'est ça qui est beau, c'est que il y a un autre regard sur cette femme. C'est pas la femme qui déprimée attend que son mari revienne et fait sa tapisserie. Mais c'est une femme qui résiste, qui a un regard sur ce qui se passe aussi, même sur la guerre. Enfin, sur la guerre, à un moment donné, elle supporte pas. Donc, c'est une. Et à la fin du film, elle a le dernier mot quelque part. Et c'est un hymne à l'amour finalement à la fin. Et l'Odyssée, c'est quand même des chants. C'est une écriture. On appelle ça des chants. Il y a eu plusieurs traductions. D'ailleurs, et c'est pour ça que Uberto s'est pris la liberté de raconter aussi un peu différemment. À un moment donné, il y a la tentation de peut-être s'offrir à un autre homme, alors qu'on a toujours décrit Pénélope comme la femme absolument fidèle, impeccable, qui n'a pas une once de doute, de désir, mais en fait, il l'a transformée en femme dans l'histoire de ce film. Et c'est pour ça que c'est beau de voir cette interprétation différente.
Elle est beaucoup plus complexe que dans le mythe. Il y a évidemment la ruse du métier à tisser, elle est très intelligente, mais elle ne semble pas indifférente aux accouplements qui se produisent dans son palais, tout en étant déchirée de tristesse, puisque ça la renvoie à sa solitude, et en même temps, on sent qu'il y a du désir charnel chez elle.
Oui, mais et à la fois à cette dépravation de tout ce qui est autour d'elle, de tout le monde couche avec tout le monde veut le pouvoir, tout le monde s'entretue, il y a plus de verticalité humaine, d'un respect ou d'une envie communautaire de vivre ensemble malgré la difficulté. C'est chacun pour soi dans un égoïsme à outrance et elle le supporte pas et elle sait pas comment faire parce que elle s'enferme donc dans son château parce qu'elle sait pas comment résister à tout ça.
C'est une autre des ambiguïtés, c'est que la plupart des hommes veulent l'épouser et donc la respectent puisque c'est la reine et en même temps lui manque de respect. J'étais frappée par la barbarie.
Ben oui, parce que on est, de toute façon chez les Grecs, on est quand même dans un milieu assez patristique et donc on le sent ça. Mais à la fois, moi, parfois cette histoire-là, je l'imagine un peu comme si Pénélope et Ulysse étaient une même personne. C'est le féminin et le masculin et comment ils doivent se réunir à un moment donné. Et comment le masculin doit rejoindre le féminin aussi. Il doit reconquérir quelque chose de son féminin et à la fois laisser tomber. Symboliquement, il y a quelque chose qui se joue là que je trouve intéressant par rapport à cette histoire-là, comme archétype de nos vies.
Il doit d'ailleurs reconquérir aussi Pénélope, c'est pas du tout évident comme retrouvaille.
Pas du tout.
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est humain, en fait, Umberto Pasolini a enlevé les dieux.
Oui, il n'y a pas Athéna, Non, c'est vraiment des humains et presque une histoire familiale entre le père, le fils, la mère et le fils et le couple, oui.
Ça a été tourné à la veille de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et je crois que ça vous a frappé parce que c'est un texte qui a été écrit 800 ans avant Jésus-Christ et qui résonne... Hélas, parfaitement aujourd'hui.
Oui, et pas seulement en Ukraine. Toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai que ça nous fait réfléchir encore plus à travers ce film de notre fragilité et de où est l'endroit d'une justesse, d'une droiture, de ce qui paraît aussi humainement possible. À la fois, il y a un bain de sang à un moment donné dans l'histoire de The Return. Et c'est vrai que mon personnage, dans Pénélope, dans le film, il y a un cri à un moment donné, justement, parce qu'elle voit ce perpétuel recommencement de ce qui est donné à de nouvelles générations, comme si ça n'allait jamais s'arrêter, ces guerres, et cette envie de vengeance, cette cruauté. Et ce cri, pour moi, il est important parce que c'est vraiment la femme, le féminin, qui n'en peut plus de cette perpétuité de malheur, en fait.
Ce qui est frappant, justement, le contraste est renforcé par l'écart entre l'intensité des sentiments, des émotions et de ce qui se passe, et la sobriété des plans, des costumes, des décors. C'est ancestral.
Ça, c'est ce qu'a eu envie de filmer Umberto Pasolini parce que il voulait quelque chose d'extrêmement simple par l'aridité des sols, la difficulté d'être en mer, la chaleur, le soleil et à la fois des sentiments extrêmement accrus et des fondements de l'humain, des humains, de ce qui nous fait réfléchir, de ce qui nous fait des vraies questions existentielles de ce que c'est de vivre. Donc, il y a ce contraste entre l'extérieur et l'immensité du ciel, de la mer, et à la fois des émotions qui surgissent comme des montagnes à l'intérieur de soi et qui se confrontent.
Il y a des très très beaux gros plans sur les visages des acteurs principaux dont vous faites partie, Juliette Binoche, et on vous voit souvent... J'allais dire en larmes, mais non, c'est plus subtil que ça. Au bord des larmes.
C'est en résistance des larmes.
En résistance des larmes. C'est un film aussi sur le désespoir, deuil et la mélancolie.
Oui.
À quoi vous pensez quand vous pleurez à l'écran?
En fait, je ne pensais pas. C'est mon corps qui agit et moi j'obéis à ce que mon corps dit.
C'est incroyable, vous étiez traversée réellement par le rôle.
Oui, parce qu'on doit, nos cellules doivent être traversées pour que ce ne soit pas nous qui jouons. Mais que ça se joue à travers nous. Et c'est une petite différence, mais elle est énorme quand on joue. Et en fait, c'est quand on ressent autant que on est libéré, en fait, par notre volonté. On n'a plus à faire. Ça passe à travers nous.
Vous vous préparez pour être dans cet état?
Oui, et à la fois, une fois qu'on a commencé à séparer, on sait où c'est, à l'intérieur de soi, et du coup, on n'a pas...
C'est accessible plus facilement.
Ça vient tout seul.
Ulysse, pendant presque tout le film, c'est quand même le plus passif des personnages.
Ça, c'est vrai. Oui. Sauf à un moment donné, quand même.
Oui, à un moment donné où il rattrape vraiment 20 ans de...
d'absence.
Oui. Pénélope dit à un moment qu'il y a tant de choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne pourra jamais comprendre. Pensez-vous que certaines choses ne puissent jamais être comprises? Et est-ce que c'est une idée avec laquelle vous vous accommodez facilement?
Oui, parce que le mental, ce qui nous permet de comprendre, à un moment donné, ça s'arrête. Après, il s'agit d'une intuition, il s'agit d'une connaissance qui n'est pas celui du savoir et de la volonté, mais plus d'un ressenti c'est perceptible par le corps, par la sensation. Et c'est vraiment ce qui me passionne en tant qu'actrice, c'est que on est souvent en rapport avec les sensations qui nous permettent de sentir, d'avoir une intuition qui va presque plus vite que le mental. À la fois, on a besoin d'être rassuré par le mental, par le rationnel. On a besoin de cette partie de notre cerveau pour pas perdre pied et voilà, dans un espace-temps. Mais il y a un moment donné où l'intuition fait sentir un autre espace-temps. Et c'est là où c'est magnifique parce que c'est comme en montgolfière, on monte tout d'un coup à un autre étage, on s'élève à un autre étage. Et en tant qu'acteur, on doit faire le lien entre ces deux mondes, entre le rationnel, disons, le concret, ce qu'on voit et ce qu'on comprend, ce que l'entendement comprend, et à la fois cet autre endroit en soi qui fait qu'on est transporté dans un autre lieu et qui fait sentir plus intensément, je dirais.
En Occident, on a tendance à donner beaucoup trop de place au mental. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditeurs pour être un peu plus en lien avec son intuition ?
Le silence, je crois que c'est un lieu important pour ressentir. Et puis pas forcément faire attention à sa volonté et à laisser venir les choses. C'est-à-dire qu'on est plus dans la réception que dans vouloir prouver,
forcer
les choses. Ne serait-ce que l'écoute, c'est le premier lieu, en fait, d'un ressenti à un autre niveau, parce qu'on est plus humain déjà. Quand on écoute, il y a une partie en soi qui s'ouvre et qui permet en fait un vrai lien avec l'autre.
Mr. May, what news from the land of the living?
The last case, William Stoke.
I'm looking for people who might have known a man called William Stoke.
Billy Stoke, you mean Big Billy?
You won't find any friends of his round here.
There will be a funeral in London. Would you consider coming?
Dunno.
For the living, could be better not to know.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Uberto Pasolini, c'est aussi le producteur de The Full Monty et le réalisateur du film aussi beau que triste, Still Life, avec Eddie Marsan. Qu'en avez-vous pensé, Juliette Binoche? Parce que je sais que vous avez vu tous ces films.
J'ai trouvé qu'il a une sensibilité, il est... D'abord, il est d'une grande intelligence, Uberto. Il est fin, il sait se remettre en question. Quand j'ai vu ses films, je me suis dit, ça me donne envie de sauter dans son œuvre, dans ce qu'il a, sa vision. Et dès le départ, il était très précis sur ce qu'il voulait et à la fois assez ouvert. Moi, je sais que au départ, il avait une idée très précise de comment je devais jouer par rapport à Pénélope. Et puis, quand on a commencé à répéter, je me suis rendu compte qu'il se remettait en question assez facilement. Et ça m'a plu.
Vous l'avez même dit, les trois premières prises, je fais ce que je veux, et si ça ne va pas, la quatrième...
Oui, parce que j'ai vu que le premier jour de tournage, donc il me parlait de ce qu'il voulait dès le départ. Et je me suis dit, ah, dommage, parce qu'on va aller justement plus dans une rationalité, dans quelque chose de fini, au lieu d'élargir sur une infinie de possibilités. Donc, pour essayer de trouver un compromis, je lui ai dit, écoute, les trois premières prises, je le fais comme ça vient, je suis libre, et à partir de la quatrième, tu me demandes ce que tu veux, on en fait 70, je suivrai ton chemin où tu voudras.
Since you've been gone, I've so many things.
C'était Duran Jones and the Indications. Been so long, et vous apprécierez mon accent anglo-saxon magnifique.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Juliette Binoche, je sais que vous avez une vie intérieure et spirituelle riche. Est-ce que vous vous intéressez toujours aux spiritualités chinoises et égyptiennes ?
Ah oui, bien sûr. Quand j'ai le temps, que je peux lire des livres dessus, oui, ça me passionne. Toutes les religions me passionnent parce que on relie à une autre sphère et finalement ça se rejoint aussi. C'est ça qui est passionnant, c'est de voir que les questions qu'on soit de l'est, de l'ouest, du nord, du sud sont à l'intérieur de soi les mêmes et les connexions. Voilà, à une autre partie, à l'invisible, à l'indicible, à ce qui se touche pas, mais qui se sent, ça, je trouve, ça nous nourrit et disons que ça nous permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, à une espèce d'enfermement qu'on peut avoir dans nos idées, dans nos convictions, toutes les prisons qu'on se fabrique. Ça permet d'avoir d'autres points de vue et je trouve que c'est primordial.
Dans l'imaginaire chinois et dans l'imaginaire taoïste chinois, il y a effectivement un endroit qui se situe au bord du fleuve Yangtze. Et au bord de ce fleuve, qui est un endroit très, très isolé, très perdu, se trouve une montagne qui est effectivement l'entrée du monde des Malmorts. Le Malmort, c'est celui qui, a priori, est mort beaucoup trop tôt, de manière brutale, de manière violente, qui a été arraché dans la pensée taoïste. On accorde beaucoup d'importance au capital d'énergie vitale dont on est porteur dès notre naissance, dès notre conception. Et donc, c'est quand on est arraché, en fait, à ce cycle d'énergie vitale. Et donc, ce sont des âmes qui, du fait de leur départ, en emportant dans l'au-delà ce capital d'énergie vitale non épuisée, gardent une sorte de présence, comme s'ils étaient à moitié morts, à moitié vivants, et ils sont prisonniers d'un entre-deux.
Juliette Binoche, vous avez signé la préface du livre « La forteresse des âmes mortes » de Sandrine Chenivès chez Actes Sud, paru en octobre dernier, un ouvrage consacré à la question de la mort dans le taoïsme. On entend l'ethnologue, psychanalyste transgénérationnelle et écrivaine en 2025 sur le site de la librairie Mola. Et alors, vous l'aviez rencontrée bien avant, puisque vous avez voyagé en Chine avec elle il y a à peu près 15 ans.
Oui, on s'est rencontrés, mais il y a 30 ans, parce que Zhang Wen était le mari de Sandrine Chenivès, donc on s'est rencontrés à cette époque-là, et parce que j'avais vu un de ses films que j'avais beaucoup aimé, j'avais envie de travailler avec lui, bref. Et on s'est retrouvés parce que j'ai dansé en Chine, à Beijing, à Pékin, et on s'est retrouvés et je lui dis « Oh, j'aimerais tellement visiter la Chine avec toi », parce qu'elle parle chinois couramment. Et en fait, on a réussi à concocter ce petit voyage, toutes les deux, avec nos enfants respectifs. Et elle m'a emmenée dans des endroits sublimes, de petits villages perdus, au fin fond de la Chine. Et c'était passionnant. Et puis, quand elle a écrit ce livre, je l'ai lu et j'ai dit « Mais c'est génial, ce livre !» C'était pas encore publié. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux bien faire la préface? Et je trouve qu'elle est passionnante et elle parle de sujets qui, pour nous occidentaux, nous paraissent complètement fous, mais dans les traditions taoïstes, c'est une réalité. Dans ce livre-là, elle fait en fait face à elle-même. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire.
J'ai lu votre préface.
Ah oui, mais vraiment.
J'ai envie de lire le livre.
C'est un livre extraordinaire, je trouve, parce que finalement, elle doit faire face à elle-même. Et il y a un retournement qui se fait. Et c'est une sorte de parcours initiatique à suspense, parce qu'on est vraiment dans un western intérieur, je dirais. Et puis, elle a une plume extraordinaire. Elle écrit très, très bien. Je trouve que c'est vraiment un livre à lire. Voilà.
Quel est votre rapport à vous, à la mort ou à vos morts ?
Vaste sujet. je pense que ce qu'on croit dans sa vie, à soi, vivante, ce qu'on croit, ce qu'on imagine, ce qu'on dit aussi, parce que les mots sont porteurs et créateurs, c'est important parce que ça crée son créateur. Donc, moi, je trouve qu'il faut faire attention à ce qu'on imagine, à ce qu'on projette. Parce que je crois qu'on est des vrais créateurs de notre vie et de notre avenir, même après la mort. Donc évidemment, moi je ne crois pas que ce soit fini. Et j'ai une relation à la vie, en quelque part, en ayant un rapport avec l'autre partie de la vie. Mais disons que notre vie est en fait porteuse de notre vie d'après. Mais pas en disant ça c'est bien, ça c'est mal, il ne s'agit pas de ça. Pour moi, c'est plus nous sommes porteurs par nos actions, nos pensées, comment on se donne en fait. C'est le don de soi qui fait qu'il y a un reflet ailleurs qui se passe et qui est à la fois merveilleux, mais qui peut être aussi, par la vérité de ce qui s'est passé dans la vie, terrible. Donc, je pense que ce rapport visible-invisible, pour moi, il est toujours présent. Alors, je n'ai pas essayé de faire ci pour avoir ça, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais d'être vraiment responsable de ce qu'on porte en soi, de ses pensées, de ce qu'on dit, de ses actions. Ça, j'y crois complètement. Je pense que c'est notre responsabilité.
Je vous avais reçu il y a plusieurs années dans Remède à la mélancolie. Vous aviez recommandé le livre Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Est-ce que vous avez toujours été spirituel? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut cultiver, qui peut s'accroître?
Alors, enfant, je dirais que j'avais une foi naturelle. C'était comme ça. Je croyais. Et puis, à l'adolescence, ça s'est parti. Et puis, c'est revenu. Il suffit juste de vivre un peu et d'avoir des coups de massue sur la tête. En général, ça nous remet bien en question et il y a toujours cette interrogation, mais c'est pourquoi tout ça? Et ça, ce sont des questions existentielles qui m'ont permis finalement de revenir. Et puis des lectures, des rencontres avec des personnes. Et puis j'étais attirée naturellement aussi par ça. Et puis j'ai vécu un tremblement de terre parce que j'avais mon fils de 5 mois à l'époque, c'était à Los Angeles. Et j'étais très ébranlée. J'arrivais le soir à Los Angeles, la nuit du tremblement de terre. Et tout d'un coup, de vivre ce profond déracinement, parce que c'est vraiment ça, parce que le tremblement de terre, ce n'était pas seulement sur l'horizontale, mais c'était un tremblement de terre vertical, avec mon enfant sur les genoux à 4 heures du matin. Ça a été un ébranlement. Et donc, à partir de là, j'ai absolument cru en plus rien du tout, parce que c'était tellement assommant, j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible de vivre une absurdité pareille. Et puis c'est revenu, parce que les épreuves, en fait, c'est vraiment ça qui nous met en phase avec nous-mêmes et avec ce qui est important pour soi. Et les dialogues, pour moi, c'est un livre phare, ou un livre racine, ou un livre sur lequel je peux revenir souvent, qui est pas évident à comprendre parfois. Donc Dialogue tel que j'ai vécu, c'est un autre livre qui permet en fait d'avoir peut-être une porte d'ouverture pour essayer de rentrer dans les dialogues, parce que moi-même la première fois que j'ai lu les dialogues, je l'ai posé sur le côté en disant ça c'est pas pour moi, et en fait en lisant ce petit livre, ça m'a aidé à pouvoir rentrer dedans. Et depuis, c'est vrai, depuis 35 ans, c'est mon livre de chemin.
Je sais que quand j'avais 12 ans et que la révolution hongroise en 56 a éclaté et que j'ai vu des morts et des jeunes hommes tués, d'un coup j'étais en contact avec quelque chose qui m'a à la fois déchirée, dépassée, et j'ai senti la grâce de la vie, une puissance extraordinaire de la vie, et que je dois être au service de cette vie, et que pas seulement profiter de la vie, mais que j'ai un devoir envers cette vie.
Juliette Binoche, vous avez parlé des rencontres qui ont été importantes pour vous, et je crois que parmi elles, il y a aussi celle de la linguiste, naturopathe et spécialiste de la culture sumérienne, Marguerite Cardos, qui fut aussi une amie proche de Gita Malache et s'occupe de la diffusion de ses dialogues et qu'on entend en 2015. Qu'avez-vous appris auprès d'elle?
Oh, tout! Ah, Marguerite, c'est vraiment d'abord un amour de femme qui a vraiment le don de se donner et de remercier la vie. Elle a, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. C'est une source de connaissances incroyable. Elle est visionnaire presque, et j'ai beaucoup d'amitié, et j'ai l'impression d'avoir une mère, une sœur, une amie. Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans la même famille quand je suis avec elle.
Etienne Dao, Le Grand Sommeil, en avez-vous assez, chers auditeurs? C'est la question à laquelle je crois hélas avoir une réponse. Juliette Binoche, adolescente, votre mère faisait des croix dans l'officiel des spectacles. Et dès que vous vous rendiez à Paris, vous dévoriez tous les films qu'elle avait cochés. Là, on entend la scène d'ouverture de La Passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, qui fut un choc pour vous.
Oui, à 16 ans, j'ai vu ce film et je me suis dit, c'est incroyable ce qui peut se passer sur un visage. C'est vraiment tous les paysages de l'humanité sur le visage de Falconetti, qui est l'actrice qui joue dans le film de Dreyer. Et elle m'en a fait découvrir pas mal, ma mère, au départ. Parce que je venais à Paris, on habitait là en province, et je venais à Paris voilà, me gorger, j'allais à mes cours de danse. Voilà, elle faisait ses croix sur l'officiel pour que j'aille voir les films qu'elle avait aimés, elle.
Elle vous a fait lire aussi les auteurs russes, et elle avait créé dans les années 70 un parti féministe avec des amis.
Oui, artistique.
Oui, avec Charlotte Kalmis, par exemple, ça, la poétesse.
Oui. Et oui, parce qu'elle sortait des années quand même 50-60, où elle avait été... En tant que femme mariée, elle devait demander la permission à son mari de pouvoir signer un chèque. Donc, on est revenu de loin, quand même. Et elle a fait partie de cette mouvance, mais elle a été écologiste avant l'heure et féministe avant l'heure, parce qu'elle avait tout simplement la conscience de ce qui se profilait.
Mais vous aussi, puisque au collège, vous organisiez des débats sur les droits des femmes, sans savoir que les hommes n'avaient pas leurs règles.
Oui, ah ouais, j'étais très... j'avais plein de... Voilà, plein d'envie. Et mon père m'avait offert un magnéto, là, avec les bandes. Et j'allais interviewer dans la cour de récréation. On faisait des réunions pour parler. Je recréais un peu les réunions du Parti féministe auxquelles j'assistais quand j'étais petite, à 7-8 ans.
Vous me demandiez tout à l'heure, quand nous étions entre nous, croyez-vous que les enfants soient plus avantagés maintenant qu'avant ? Ben, je crois que non, parce que s'en occupe tellement, on veut tellement les sauver. Enfin, on dirait que notre société adulte a tellement peur de la mort qu'elle se précipite à s'occuper des enfants, qui représentent la relève, bien sûr, mais qu'il ne leur laisse plus ni de temps, ni d'espace, ni de joie de vivre. Enfin, c'est terrible, cette organisation bureaucratique, la super protection dont chaque enfant est l'objet depuis sa gestation, pendant sa naissance, après. Et puis alors la relation parent-enfant, qu'est-ce qui reste de cet enfant-là avec ses parents-là? C'est ça que je voudrais conserver, c'est justement cette particularité de chaque être humain. Chaque être humain est différent des autres, et notre société voudrait calibrer tout le monde. Alors moi, je vais à rebours, mais c'est un peu comme quelqu'un qui, dans un sens interdit, est en train d'avancer quand le flot va dans l'autre sens. Tant pis, je continue comme ça.
C'est Françoise Dolto qu'on entend en 79 sur la RTBF. Juliette Binoche, je crois que vous affectionnez son œuvre, sa pensée.
Ah oui, j'ai lu tous ses livres. Parce que je trouve qu'elle a une pensée qui est tellement juste. Une remise en question qui paraît totalement juste. Et j'ai été très inspirée par elle.
Vous dites qu'elle reconnaît la nécessité de justement de voir l'enfant qu'il y a en l'autre. Alors j'aurais aimé savoir quel enfant vous étiez et quel enfant vous êtes aujourd'hui.
Quel enfant j'étais. Je sais que ma mère, elle m'a dit qu'à ma naissance, en fait, la joie lui est revenue à ma naissance.
C'est un beau cadeau.
Ouais, c'est un beau cadeau. Elle m'a dit, c'est comme ça. Je crois qu'elle avait vécu des choses difficiles. Et que tout d'un coup, c'est comme s'il y avait quelque chose en elle qui s'était reconnecté. Et donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que j'avais une espèce de souffle joyeux. Et puis après, je sais qu'à un moment donné, elle m'a appelée la footballeuse. Parce que,
Pourtant, vous faisiez du rugby.
parce que justement, je plaquais mes cousins à terre parce qu'ils m'avaient appris comment on plaquait avec le rugby. Et donc, du coup, elle m'a appelée la footballeuse parce que j'étais pleine d'énergie, que je rentrais, je voulais toujours faire quelque chose. J'étais pas hyper active, mais j'avais envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, de jouer. Mais enfant, c'est vrai que ma passion, c'était de jouer. Ça me permettait, en fait, de me préparer à la vie et aussi à sortir d'une certaine réalité qui devait certainement être difficile pour avoir... Voilà, traverser des moments de tension, des moments de séparation des parents, de pas vraiment savoir où j'étais et ce qui se passait. Mais le jeu, ça permettait de créer de la joie, de créer des mondes et de me préparer à la vie. Je crois vraiment que le jeu, c'est important.
Et aujourd'hui?
Et pas d'être devant des écrans qui s'ajouent à la place de vous, au lieu d'être actif dans une activité, dans quelque chose de créatif, n'importe quoi. Ça peut être faire des gâteaux, ça peut être dessiner, crayonner, faire de la pâte à modeler, n'importe quoi, mais quelque chose qui permette en fait d'être en relation avec une matière qui peut changer, qui peut s'élever, qui peut se transformer. Et ça, il n'y a rien de mieux plutôt que de mettre passivement devant un truc qui bouge et qui raconte des histoires à votre place.
la musique du spectacle de danse que vous avez fait, Juliette Binoche, avec Akram Khan, intitulé In Eye, et dont la naissance se situe, sans que vous ne le sachiez alors, en 2006, pendant le tournage à Londres de Paris Fraction d'Anthony Minghella sur une table de massage.
Oui, j'avais... vous savez, les tournages, c'est quand même hyper crevant, parce qu'on travaille des longues heures, émotionnellement, parce qu'on appuie sur la machine, enfin bon, et puis c'est difficilement imaginable, parce qu'on voit évidemment que les tapis rouges et l'extérieur, mais en fait c'est assez intense, et donc je voyais Suman Siu, qui est d'origine taïwanaise, et qui était en train de me masser. On fait beaucoup de shiatsu, donc c'est avec le coude et c'est sur les méridiens, c'est assez intense comme massage, mais très efficace. Et à un moment donné, elle me dit « Est-ce que tu veux danser ? Do you want to dance ?» Et moi, j'avais la tête dans le trou de la table de massage, voilà, tête en bas, et je lui dis oui, mais sans réfléchir. Et en fait, Suman était à l'époque et est toujours la femme du producteur d'Akram Khan, qui est chorégraphe et danseur à Londres. Et j'ai dit oui, et bon, ça fait boule de neige. Après, ils m'ont invité à voir un spectacle et ils m'ont demandé « Est-ce que tu as envie de, pendant deux jours, dans un studio, de voir si vous vous entendriez pour créer quelque chose ensemble ?» Et voilà, ça s'est passé comme ça.
Alors, on n'a pas le temps de l'aborder, mais je le signale quand même pour les auditeurs. Vous préparez deux films en ce moment sur le spectacle et les coulisses du spectacle, In Eye et Creating In Eye.
Oui, en fait, le documentaire, normalement, devrait s'appeler La Sensation Créatrice.
Donc, rien à voir avec ce que je viens de dire.
Mais c'est pas grave. Non, mais vous avez raison, parce qu'on a pensé à ce titre-là à un moment donné. Et bon, on est en train de voir comment on va sortir tout ça. Je suis vraiment en finition dernière. Et ça sortira certainement fin février.
Merci beaucoup, Juliette Binoche.
Merci à vous.
Le film The Return, le retour d'Ulysse d'Uberto Pasolini est en salle depuis ce matin. Le livre La forteresse des âmes mortes de Sandrine Chenivès, préfacé par vos soins, est paru chez Actes Sud. Et vous serez dans la pièce de Wajdi Mouawad, Le Serment d'Europe, en Grèce, ce mois d'août, au théâtre d'Épidaure. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfois et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, David Dibouet-Black. Et dans un instant, Very Good Trip par Mishka Assayas.
Pourquoi le climat change-t-il ? Quelle solution pour protéger notre planète ? Le CNED présente une nouvelle version du Béaba du climat et de la biodiversité, la première formation en ligne grand public réalisée avec des scientifiques. Des données mises à jour, des activités enrichies, des vidéos inédites pour comprendre et agir. Rendez-vous sur climat.cned.fr, un partenariat Radio France.
Et toi, tu vas faire quoi cet été ?
Plein de trucs. Escalader le Mont Blanc, aller sur une autre planète.
Une autre planète ? N'importe quoi.
Tu vas faire comment ?
Bah c'est simple, en lisant des livres.
Ah, trop cool !
Pendant les vacances, partagez le plaisir de la lecture avec vos enfants grâce au